Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Irung-Mouchige. Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois Dr Pierre Fouillot, docteur en médecine, spécialiste en ophtalmologie, promoteur de la clinique royale à Kinshasa-Gombe, secrétaire général de Kongondé, société d'intelligence stratégique, administrateur à Leadership Academia University, formateur en leadership de Équipe France et vice-président international en charge de l'Afrique et directeur international du Full Gospel Business Men's Fellowship International. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Radio Capi, grand témoin.
Docteur Pierre Fouillot, bonjour.
Bonjour.
Ça fait plusieurs casquettes pour une seule personne.
Je veux dire qu'une seule casquette, c'est la casquette d'un homme, c'est tout. D'un homme au service de ses frères et au service de ses semblables.
Sinon, vous allez bien?
Oui, très bien.
Comme je l'ai dit, vous avez plusieurs casquettes. On va essayer d'aborder casquette par casquette progressivement. Commençons par l'actualité. Vous êtes secrétaire général de Kongondé, société d'intelligence stratégique. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure qui a organisé sa première convention scientifique le vendredi 5 avril dernier à Kinshasa? C'est quoi cette structure? Quels sont ses objectifs? N'est-ce pas une structure de trop qui vient s'ajouter au trop-plein qui existe déjà et dont on ne voit aucun résultat?
Je voudrais vraiment vous dire que ce n'était pas une structure de trop, ni une structure comme les autres. Je pense même que Kongondé est une initiative tout à fait nouvelle. Chez nous au Congo, comme de nombreux auditeurs peuvent l'attester, il n'existait pas des regroupements ou une société intelligente qui réunit des élites pour faire des réflexions stratégiques pour la nation et faire des propositions concrètes pour que la nation puisse aller de l'avant. C'est vrai qu'il y a des structures étatiques qui existent, mais là nous parlons de l'intelligentsia dans son ensemble, dans différents secteurs. Et c'est en cela que Kongondé est une innovation et Kongondé arrive à prénommer pour le bien de notre nation.
Le thème de cette convention scientifique était CAP 2060, 100 ans d'indépendance du Congo que nous avons au Congo que nous voulons. Comment vous expliquez ce thème?
En fait, ce thème s'explique parce que aujourd'hui, ça fait 64 ans que notre nation est une nation indépendante et tous nous sommes conscients de la situation dans laquelle nous nous retrouvons dans tous les domaines. Et aujourd'hui, il est parfois difficile de répondre à une question, celle de savoir quel est le secteur qui marche dans notre pays. À cette question, parfois la réponse peut être assez difficile à donner. Et nous pensons qu'en tant qu'élite, en tant qu'intellectuel, bientôt dans 36 ans, nous aurons 100 ans d'indépendance et nous pensons que nous devons léguer à nos enfants, aux générations futures, un Congo qu'on révèle, on perd l'indépendance, un Congo plus beau qu'avant. Et nous pensons que d'ici 2060, nous devons absolument élaborer un projet des nations pour que nous puissions bâtir un Congo différent. Et pour cela, nous pensons qu'il faut mobiliser toute l'intelligence congolaise, chacun dans son domaine, pour qu'ensemble nous puissions rédiger ce projet des nations pour bâtir un Congo meilleur, le Congo que nous voulons.
Mais qu'est-ce que vous répondez à certains Congolais qui sont pessimistes et qui se disent que maintenant le pays va déjà très mal et au lieu d'arranger ce qui peut l'être aujourd'hui, vous visez les 35, 36 prochaines années?
En fait, la situation que traverse notre pays, le Congo, a besoin de solutions structurelles, pas des solutions conjoncturelles. Et ce qui fait que si nous voulons vraiment des solutions structurelles, cela signifie que nous devons avoir le temps de réfléchir de façon intelligente, de faire des réflexions stratégiques et nous projeter dans le futur. Vous savez, je vais donner un simple exemple, il ne suffit pas de colmater les trous sur une route. À Kinshasa, par exemple, dans notre ville, il y a des trous qu'on colmate chaque année, mais chaque année, le même trou revient. Cela signifie qu'autour de ces trous, personne n'a fait une réflexion intelligente. Parce que les trous peuvent revenir au même endroit, parce que le sol est mauvais, parce qu'il y a une racine d'arbre en bas, parce qu'il y a un mauvais système de drainage, et voilà. Alors, donc ce qui fait qu'au lieu de faire d'apporter des solutions conjoncturelles, nous voulons des solutions structurelles. Et aujourd'hui, dans notre nation, nous ne pouvons pas mettre sur la table un programme réel, un projet réel de développement à l'horizon 2060, 2040, 2050, territoire par territoire, province par province, qui peut permettre à chacun de nous à s'y référer, de telle sorte que, quelle que soit la personne, quel que soit le gouvernement, quels que soient les dirigeants qui arriveraient dans une entité, s'il peut trouver un projet de développement clair, sur le long terme et avec des obligations que nous devons nous faire en tant que nation, en tant que peuple, pour des actes et des gestes que nous devons poser chaque jour, chaque mois, chaque année pour arriver à ces résultats-là. Parce que si nous continuons à agir de la même manière que nous l'avons fait jusque-là, nous n'aurons pas un résultat différent.
Cette première convention de Congo-Ndé, comment elle était structurée, quels étaient les différents panels, et même si déjà on peut parler des grandes recommandations ou des grandes résolutions?
Il faut dire que cela n'était qu'un premier pas. Le gros reste à faire et à venir. Parce que je vous ai dit que nous avions l'ambition d'avoir un projet des nations à l'horizon 2060. Et à cet effet, pour y arriver, nous avons besoin et nous allons mobiliser l'essentiel de l'intelligence congolaise de tous les secteurs, puisque ce projet des nations soit rédigé. Mais pour revenir à la conférence a eu deux grandes parties. Dans une première partie, on a évidemment présenté ce qu'était Congo-Ndé, la société d'intelligence stratégique, avec deux piliers que Congo-Ndé a, l'Académie des bons sens et l'Académie des technologies, créativité et innovation. Et par la suite, Congo-Ndé, qui a déjà commencé à faire des réflexions stratégiques intelligentes, a présenté une étude qui était une enquête de satisfaction par rapport aux besoins sociaux des bases sur 25 provinces de la République. Toutes les provinces ont été concernées dans cette étude, exception faite pour la ville-province de Kinshasa. Et cette étude a porté sur les besoins sociaux des bases en matière d'eau, d'électricité, de transport, de santé, d'éducation. Et nous avons présenté les résultats de cette étude qui a donné à l'auditoire, à l'Assemblée, à tout le monde, une photographie sur le Congo que nous avons. Et cela nous a tous encouragés vraiment à réfléchir et à penser au Congo que nous voulons.
Et déjà pour parler du Congo que nous avons, selon cette étude, est-ce que on est dans le gouffre, on est en train de nous en sortir? Comment évolue le pays selon cette étude?
Non, selon cette étude montre que les défis sont très nombreux. C'est vrai que depuis 64 ans, le Congo n'a pas fait de réels progrès. Comparativement en termes de développement dans différents secteurs, comparativement à plusieurs autres nations qui étaient dans une situation comparable à la nôtre en 60 ou en 1950. Et donc la situation est une situation qui est assez difficile et complexe et la population, le peuple n'a pas la satisfaction depuis 64 ans de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et il ne suffit pas de le constater. Et nous, Congo-Ndé, nous n'avons pas l'ambition de nous plaindre ou l'ambition d'apporter de la critique. Mais nous avons comme pour vocation d'apporter des réponses, d'apporter des solutions, d'apporter des propositions intelligentes et stratégiques, des propositions intelligentes, stratégiques et structurantes qui peuvent permettre à l'État, à la nation, d'être bâtie sur de nouvelles bases, sur de façon plus durable, et sur les chemins d'un développement réel et sûr.
Alors, vous parlez de l'Académie du bon sens. Qu'est-ce que cet aspect de Congo-Ndé vient apporter de nouveau dans le paysage congolais?
Oui, il faut dire que lorsqu'on parle du bon sens, au fait, le bon sens, c'est ce que tout le monde peut avoir. On peut même dire que c'est le niveau les plus bas de l'intelligence, je veux dire. Parce que chacun a un bon sens. Et aujourd'hui, nous, en tant que peuple, en tant que nation, quand nous regardons autour de nous, de la manière dont nous vivons, nous fonctionnons, et nous remarquons qu'il y a de moins en moins de bons, même ce minimum-là que devait être le bon sens. Il nous suffit de voir ce qui se passe en termes de salubrité, en termes de circulation routière, en termes de dans différents secteurs, pour voir que souvent nous manquons ce minimum qui est le bon sens. Et nous voulons, remobiliser tout le monde, quel que soit les niveaux social, académique, intellectuel, pour que au moins nous puissions agir avec ce minimum-là de bon sens. Et cette académie se donne l'objectif d'organiser plusieurs réunions formatives pour rappeler, enseigner, ramener un peu tout le monde à ces minimums de niveau qui seraient les bons sens. Ça, c'est un de nos leviers. Mais au-delà de cela, le peuple a aussi besoin d'une classe des élites qui font des réflexions stratégiques plus pertinentes, plus intelligentes, pour que aujourd'hui, demain, nous puissions être capables de relever les défis dans ce contexte mondial aujourd'hui où chaque nation veut agir suivant ses intérêts.
Mais quand on entend le Congolais dans la rue, il dit plutôt que c'est cette élite qui est en train de détruire ce pays.
Je pense que l'élite congolaise a une responsabilité. Et sa première responsabilité était entre autres de faire des réflexions intelligentes et stratégiques pour que le peuple dans son entièreté puisse être orienté sur la bonne et la meilleure direction. Je pense que quand nos grands-parents ont envoyé nos pères à l'école, ils avaient espéré qu'ils puissent faire mieux que le colonisateur. Et je pense que quand nos pères nous ont envoyé, nous, notre génération, moi j'ai 61 ans cette année, il y avait la même espérance. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons tous ensemble, en tant que nation et peuple, trahi les aspirations de nos grands-parents, qui peut-être en 1920, en 1910, pensaient qu'en envoyant leurs enfants, qui enverront leurs petits-enfants à l'école, à leurs petits-enfants, la nation serait meilleure. Aujourd'hui, c'est ce défi-là que nous voulons relever. Et nous pensons que ce défi ne peut pas être relevé tant que nous continuerons à agir de la même manière. On ne peut pas attendre des résultats différents si nous continuons à agir de la même manière. Et pour cela, l'intellectuel congolais a la responsabilité. C'est pour ça peut-être que les autres nous accusent, parce que c'est nous qui devions être ces lumières-là pour éclairer les autres par nos réflexions stratégiques, intelligentes, pour mettre la nation sur les meilleurs rails possibles.
Alors, qui sont membres de Kongondé, de cette structure?
Bon, à ce jour, Kongondé a une poignée de membres. Pour nous, Kongondé, en tant que société d'intelligence stratégique, nous ne sommes pas très, très intéressés par un très, très grand nombre de gens. Parce que nous la voulons une société qui est intelligente, qui est élitiste. Mais les idées que Kongondé va apporter, nous voulons que ces idées-là soient consommées par la nation, par le peuple, pour que nous puissions ensemble aller dans la bonne direction. Et Kongondé n'a pas l'ambition de recruter beaucoup de gens en son sein comme des membres effectifs ou pour des positionnements ou que sais-je. Mais Kongondé se donne l'ambition de pouvoir mobiliser un maximum d'intellectuels congolais, d'élites congolaises à la réflexion. Donc Kongondé est une plateforme. Donc lorsque nous voulons par exemple réfléchir pour nous dire comment pouvons-nous améliorer la communication, le métier de journalisme ou que sais-je au Congo, Kongondé va mettre ensemble les spécialistes du domaine pour faire des réflexions stratégiques et faire un plan, un programme qui peut nous permettre d'ici 2060 aller sur le meilleur chemin. Donc Kongondé n'a pas l'ambition de penser que ses membres étaient les meilleurs Congolais. C'est pas ce que nous disons. Mais nous voulons juste servir des tribunes, des plateformes pour mobiliser les élites dans chaque secteur, les mettre ensemble et y produire des programmes qui peuvent amener notre nation de l'avant dans différents secteurs.
Ça, c'est le Congo que nous avons aujourd'hui, mais le Congo de demain, le Congo que nous voulons, comment il se présente selon Kongondé?
Le Congo que nous voulons en 2060, c'est un Congo où la nation congolaise doit, à l'image des ressources dont elle dispose, en termes de ressources humaines, des ressources naturelles, de toutes les potentialités, puisse les traduire en richesse, en bien-être dans tous les secteurs pour son peuple. Pas seulement pour son peuple, mais aussi rayonner et jouer son rôle, sa vocation en termes stratégiques, en termes géopolitiques, non seulement dans la région de l'Afrique, non seulement dans les continents africains, mais aussi dans le monde. Nous pensons qu'il y a une disproportion entre toutes les ressources que le Congo a et la position dans laquelle le Congo et les Congolais se trouvent aujourd'hui. Et nous voulons que le Congo de demain, le Congo puisse répondre, relever ce défi-là.
Comment va s'y prendre Kongondé pour que le fossé entre l'élite et la population soit comblé? Comment toutes ces grandes stratégies, ces grandes idées vont arriver jusqu'à la maman qui fait son chant à Malimbankulu, à Ingende, à Inongo et partout au pays?
Je pense que la maman qui fait les chants à Ingende a probablement des éléments de comparaison. Peut-être que si elle faisait déjà son chant en 1959, elle pouvait se dire qu'elle produisait autant de sacs d'arachide, qu'elle pouvait facilement évacuer vers les centres urbains les plus proches et qu'elle avait un revenu qui lui procurait un certain bien-être. Et aujourd'hui, elle est consciente que non seulement elle n'a plus nécessairement l'outil nécessaire pour produire la même quantité, mais elle ne sait pas non plus que faire de sa production. Parce qu'elle n'a peut-être pas la route qu'il faut, peut-être pas les moyens d'évacuation, peut-être pas. Donc cette maman-là aussi est consciente que le Congo qu'elle a aujourd'hui doit être améliorée et elle aspire aussi à un meilleur Congo dans son secteur. Et nous, en tant que Congolais, dans différents secteurs, si nous parlons par exemple de la maman agricultrice qui est à Ingéné, nous pensons que du point de vue de l'agriculture, nous pouvons produire un programme de développement agricole dans notre nation, avec tout ce que ça comporte comme corollaire. Et évidemment, vous comprendrez qu'il n'y a pas un secteur qui soit un secteur isolé. La majorité des secteurs, il y a toujours des passerelles entre les secteurs. Donc c'est un programme qui est multisectoriel, parce qu'il y a souvent une interdépendance entre différents secteurs. De telle sorte que demain, dans la mise en œuvre de cette vraie politique de développement agricole d'ici 2060, non seulement la maman d'Ingéné soit capable d'évacuer ses produits, mais aussi que l'agriculture dans Ingéné soit industrialisée, soit modernisée, et qu'il y ait des infrastructures, qu'il y ait des usines de transformation, que ça puisse créer de la richesse, de la main-d'œuvre, des infrastructures et un développement de toutes les communautés de base.
Pour clore ce chapitre sur Congo-Ndé, littéralement, comment vous définissez Congo-Ndé en français pour ceux qui veulent comprendre le sens ou le nom de cette structure?
Oui. Au fait, vous verrez que nous écrivons Congo-Ndé avec un trait d'union entre Congo et Ndé et un accent aigu sur le E. Donc, c'est un peu pour dire le Congo d'abord. Donc, le Congo est pour nous notre première priorité. Personne des membres de Congo-Ndé ou dans les objectifs de Congo-Ndé ne veut s'engager pour son intérêt personnel. Nous voulons que l'intérêt du Congo soit au-dessus de tout intérêt possible. Et d'ailleurs, lorsque nous parlons de l'horizon 2060, moi-même en 2060, j'aurai 97 ans. J'espère vraiment être encore en vie. Mais ce qui est vrai, c'est que beaucoup de gens de ma génération n'y seront peut-être plus. Mais nous devions cesser aussi de commencer à penser simplement à aujourd'hui, à notre situation personnelle de demain. Mais nous devions aussi et surtout investir ce que nos parents, nos grands-parents investissent en nous pour des générations futures. Et je pense que nos aïeux avaient mieux protégé nos eaux, nos forêts, nos terres que nous le faisons aujourd'hui. Et nous devons donc faire mieux pour les générations futures. Et donc, en tant que Congo-Ndé, c'est dans cette perspective-là que nous projetons.
Il y a plusieurs personnalités, hein. Cette structure est coordonnée par le sénateur honoraire Didier Moumengi. Et à vous-même, est-ce que vous pouvez nous citer d'autres personnalités qui en sont membres?
Bon, nous aimons bien en Congo d'utiliser les noms personnes, parce que les mots personnalité risquent de creuser les fossés entre nous et les autres. Voilà. Donc, nous avons Didier Moumengi qui est le président des Congo d'Ndé, Paulin Balanda qui est un avocat et en est le vice-président. Nous avons des membres, nous avons Richard Kititi qui est avocat, Francis Lugunda qui est avocat, Bin Kassongo qui travaille dans le secteur minier, dans le Katanga. Nous avons le professeur Kiangu qui est un enseignant d'histoire à l'université de Kinshasa. Nous avons Marie-Ange et Christelle qui travaillent dans Empreinte, qui sont deux formidables dames. Nous avons Nika Kayembe qui est aussi avec nous, et j'espère que je n'ai pas oublié. Beaucoup de gens. Mais voilà un peu, c'est que nous avons Prince Moubaké, qui est un Congolais, il est aux États-Unis. Nous avons John Moussoussa, qui vit aussi en Amérique. Donc nous avons beaucoup d'autres personnes dans Congo-Ndé qui travaillent avec nous la main dans la main. Nous avons un gros panel d'experts avec lesquels nous collaborons pour nos réflexions stratégiques.
Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Prophète Dominique Kone, la réserve de l'Éternel, Moïse Mbiye. Oponanga otalibu mwa mama na yeba kutute. Ozanzamba malamu talaka mabea motote. Soki pona masumunde obenga David lom selon ton cœur te. Ozanzamba malamu nzambea bwena mona na mute. Soki opesi moto vision opiaka provision. Même si mes péchés sont comme des cramoisis, ils deviendront blancs comme une neige. Je compte sur ta grâce. Nzamba baboto, nzamba malamu, namona namute. Pasteur Ken Lomba, apôtre Kerok, naye komi bonza comme un sacrifice vivant dans tes parvis, mon Dieu.
Coupable que je suis, elle qui en a mon thème. Pourquoi pas pour nana? Pour c'est quoi pour nana? Jésus na loboko ya droite, ya papa, osa quoi intercéder. Mon avocat auprès du père, c'est toi. Aussi quand qu'un bon dimio la tante, toi ma soumou, pour nana, héritier na comme mon santou. Opéto la naya. Prisonnier bon maman ton amakana Aza pena droit fongoule Pourquoi pas na moto ya masumu
François Mouton
Ressent toi va toi va Na ki na ye na lola
ye Voici l'homme
Kaka po na ma wa kiti ya poufi po nanga Kanangwe zanga ki mo Toa komi pesa Mo toa komi kaba Bonga na soa bongo ya seko Je me sens bizarre, abandonné, flottant, comme un personnage dans une phrase que l'auteur ne finit pas.
Il n'y a que toi qui peux m'aider. Oh.
Le grand témoin.
Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en cours, sachez que grand témoin reçoit Dr Pierre Fouello. Il est docteur en médecine, spécialiste en ophtalmologie, promoteur de la clinique royale à Kinshasa Gombe, secrétaire général de Kongonde, société d'intelligence stratégique, administrateur à Leadership Academia University, formateur en leadership de Équipe France et vice-président international en charge de l'Afrique et directeur international du Full Gospel Businessman Fellowship International. Alors, docteur Fouello, vous êtes administrateur à Leadership Academy University. Si je ne me trompe pas, c'est l'université dirigée par le révérend docteur Daniel Kawata. Pour faire le lien avec Congo Ndé, plusieurs personnes pensent que le mal du Congo ou le mal congolais, c'est qu'on manque de leadership. Comment vous, vous définissez ce leadership?
Bon, il faut dire que plusieurs personnes trouvent toujours... Je ne vais pas dire bouc émissaire pour les mâles congolais. Mais moi, j'aime bien dire que chacun de nous, en fait, est responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons.
À son niveau. À
chacun à son niveau. Oui. C'est pour un peu paraphraser la parole de Dieu qui dit qu'il vaut mieux regarder la poutre qui est dans son œil plutôt que...
La paille qui est dans l'œil de l'autre.
La paille qui est dans l'œil de l'autre. Et en tant que Congo, en tant que Congolais, je pense que si nous voulons nous en sortir, chacun doit d'abord faire, se regarder à soi-même. Et voir d'abord qu'est-ce que lui-même peut faire de mieux pour notre nation. Et vous savez, lorsqu'on parle de leadership, il y a plusieurs définitions dans plusieurs ouvrages, mais tout ce que je peux dire, c'est la capacité de quelqu'un de conduire sa communauté vers son bien-être, vers un objectif. Parce qu'en fait, c'est vrai que le leadership, c'est de l'influence. On influence les autres. Mais il faut que cette influence soit vers un mieux-être. Et c'est en cela, justement, que le leadership peut poser problème dans certains domaines dans notre nation. Parce que l'influence que nous exerçons sur nos compatriotes n'est pas toujours vers la bonne direction. Et c'est à cela que nous devons corriger. Mais le plus souvent aussi, il n'est pas dit que tout leader est nécessairement quelqu'un d'érudit ou de très intelligent. Donc, ce qui fait que pour faire la jonction Congo-Ndé leadership, nous voulons un Congo-Ndé amener au fait le leadership de l'intelligence. Nous pensons qu'il y a une responsabilité particulière de toutes les personnes expertes et intelligentes de guider la nation vers des meilleures perspectives.
Aujourd'hui, quand on parle souvent de leadership, plusieurs personnes semblent plutôt mettre en exergue le modèle anglo-saxon du développement, du leadership transformationnel, plutôt que le modèle francophone. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, je pense que le modèle de développement n'est pas francophone ou anglophone, parce qu'il y a des nations francophones qui ont émergé.
Tout à fait.
Qui ont émergé. Je pense que le problème, c'est beaucoup plus dans l'homme lui-même. C'est vrai que beaucoup de choses ont été mises ensemble pour peut-être que l'homme congolais ne puisse pas prendre conscience de sa vocation, de sa destinée en tant que peuple pour son mieux-être. Je pense que dans les leaderships africains ou congolais, il y a eu beaucoup d'égoïsme, où les gens ont plus pensé à eux, à leur famille, à leurs besoins immédiats, mais sans se projeter sur un futur collectif qui devrait être amélioré.
L'un des anciens présidents congolais disait que ce qu'il n'avait pas pu faire, c'était de transformer l'homme congolais. Est-ce possible selon vous?
Oui, là c'est un bon débat, transformer l'homme congolais. Vous savez, peut-être que c'est mon background chrétien qui pourra influencer ma réponse en disant que, au fait, aucun homme ne peut transformer un autre, aucune règle des hommes ne peut changer l'homme. Je suis de ceux qui croient que la transformation du cœur, c'est quelque chose que seul Dieu peut réaliser. Mais ce qui est vrai, c'est que dans les nations où il existe des règles claires, dans les nations où il existe une justice juste, il est vrai que la constitution de la loi, les contraintes qu'imposent les règles de gestion et de gouvernance, la sanction positive ou négative sur des hommes, les oblige aussi à rester sur une certaine ligne droite. Et c'est peut-être cela une des pistes pour nous. Vous savez, tous les Japonais qui sont honnêtes, ils ne le sont pas seulement parce qu'ils le veulent. Mais c'est parce qu'ils savent aussi que s'ils ne l'est pas, il y a des règles claires, des procédures pour les mettre hors d'état de nuire. C'est aussi cela. Moi, je pense que ne pas trouver de bons Congolais, je pense que c'est peut-être parce que les règles de jeu n'existaient pas. Vous savez, le même Congolais qui ne jette pas un papier au sol à Paris, mais c'est le même qui le jette à Kinshasa. La différence entre les deux lieux, c'est qu'il y a une ville où il y a l'impunité et il y a une autre où ça ne passerait pas inaperçu. Et c'est nous qui faisons le choix d'être dans un environnement d'impunité.
On va parler d'une autre de vos casquettes. Vous êtes vice-président international en charge de l'Afrique et directeur international du Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Expliquez-nous aussi une fois de plus cette structure. On a souvent entendu parler d'hommes d'affaires qui se réunissent, c'est pas pour prier. Certains pensent que c'est une société ésotérique, mystique, mystérieuse. C'est quoi le Full Gospel?
Au fait, Full Gospel, c'est une façon pour certaines personnes d'abréger les noms qui est long. Au fait, c'est Full Gospel Businessmen Fellowship International. En français, c'est Communauté Internationale des Hommes d'Affaires du Plein Évangile. Donc, c'est une association des hommes et des femmes. C'est une association interconfessionnelle. Tous les membres de cette association sont des chrétiens qui, un jour dans leur vie, de façon personnelle, ont pris la décision de recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et cette association existe dans plusieurs pays dans le monde. Elle réunit des laïcs, hommes d'affaires dans le sens anglais du mot businessman, dont toute personne qui a un travail et qui gagne sa vie honnêtement au travers de son travail. C'est une association des hommes d'affaires du plein évangile. Plein évangile, c'est dans le sens de la foi et de l'accomplissement en toutes les promesses que Dieu a faites pour son peuple. Et ils vivent et expérimentent cela dans leur vie au quotidien. Et au cours de leurs réunions, le plus souvent dans des hôtels, dans des restaurants, dans des lieux neutres, parce que c'est pas une église, ça, ils invitent leurs meilleurs amis et ils partagent avec eux la joie, le bonheur qu'ils ont dans leur vie, qu'ils ont retrouvé dans leur vie depuis qu'ils ont rencontré cet homme Jésus-Christ dans leur vie.
Cette structure est d'origine américaine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son fondateur, de l'initiateur du Full Gospel International?
Oui. Cette communauté est née en 1952 aux États-Unis d'Amérique. Un riche fermier américain qui s'appelait Demos Chakarian, c'était lui qui en était l'initiateur. Il avait un fardeau de constater que les hommes en âge d'activité, les hommes forts, ne s'intéressaient pas à différentes choses de Dieu. Les églises étaient pleines de femmes et d'enfants. Ils amenaient femmes et enfants dans les églises et eux, ils repartaient pour leur business. Maintenant, il avait eu le fardeau d'aller, de trouver des moyens pour que ces hommes-là et ces femmes puissent être eux aussi engagés à suivre Jésus-Christ, pour voir leur vie transformée et apporter un bonheur meilleur, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille et pour leur environnement. C'est ainsi qu'il a commencé ses activités en 51 et en 52, il a reçu une conviction au travers une visitation, moi j'y crois, une vision qu'il a reçue du Seigneur, qui lui a donné la certitude que c'est bel et bien lui qui lui avait donné cette inspiration pour commencer cette communauté. Et depuis, cette communauté a gagné le monde et elle existe dans plusieurs pays. En République démocratique du Congo, elle est arrivée en 84 et depuis 87, la communauté a reçu sa personnalité juridique.
Et comment vous en êtes arrivé à gravir tous les échelons jusqu'à devenir aujourd'hui vice-président international en charge de l'Afrique et directeur international? Comment vous en êtes arrivé là?
Franchement, je ne saurais pas répondre pour dire quel effort j'ai fait. Je vais dire simplement que c'était une grâce de Dieu. Au fait, pour nous, c'est des responsabilités juste pour être au service de ses frères. Donc, nous ne les considérons pas comme des grades qu'on a eu ou des galons qu'on a eu en plus. Mais ce qui est vrai, c'est que ceux qui sont membres s'engagent à la mise en œuvre de la vision et de la mission de la communauté. Et par la grâce de Dieu, il n'y a plus que je puisse avoir cette charge-là pour être au service des autres.
Évidemment, je sais que vous êtes trop modeste, vous n'allez pas en parler, mais expliquez quand même aux Congolais, aux millions de Congolais qui vous suivent, comment leur frère est arrivé jusqu'à devenir directeur international du Full Gospel. C'est pas peu de choses.
Bon, c'est pas beaucoup de choses non plus. Alors, ce que je voulais dire simplement, c'est que, bon, je me suis engagé dans cette communauté il y a 34 ans maintenant. J'avais déjà fini mes études de médecine, j'avais certains projets, certaines ambitions. J'ai dirigé ma vie comme je l'entendais. Et puis un jour, il m'a été dit clairement que je ne pouvais pas me sauver seul et que Jésus-Christ avait pris ma place pour mes fautes, mes péchés, et qu'en me confiant en lui, j'aurai une vie meilleure, une vie plus heureuse. Et j'ai cru à la parole, j'ai fait foi en la personne et en l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour moi. Je l'ai reçu dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et depuis, je me suis engagé à son service. Il nous ordonne d'aller, de faire de toutes les nations ses disciples. Et je me suis vraiment engagé à cet appel-là. Et au travers de la vision de la communauté, qui est de transformer, de toucher des hommes, de transformer les vies par la puissance du Saint-Esprit, je me suis engagé à ce service. tout en étant dans ces champs, je pense que la grâce et la faveur de Dieu a continué à m'accompagner sur ces champs. Parce qu'au fait, Dieu nous visite, nous accompagne, ou vient à nous, au travers de nous confirmer sa parole lorsque nous sommes sur le terrain de l'action. Et je peux dire que c'est comme ça qu'on est allé d'un pas à un autre, mais toujours servant de plus en plus, à servir dans une contrée plus réduite et plus grande. Et c'est ainsi, peut-être que Dieu m'a amené jusque-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de compagnons dans l'œuvre. Beaucoup nous soutiennent par leurs prières, par leurs conseils, par leur encadrement. Et il y a toujours eu un rôle très important des aînés qui nous ont toujours encadrés et qui nous encadrent encore. Et même des plus jeunes qui prient, qui nous soutiennent, qui nous conseillent. Et nous restons donc ouverts à la manière dont le Seigneur veut nous utiliser et nous obéissons simplement.
Y a-t-il aujourd'hui quelques résultats ou quelques réalisations que l'on peut mettre au compte du Full Gospel international?
Oui. Vous savez, le Full Gospel dans le monde, Full Gospel Businessman Fellowship International, a été un des instruments que Dieu a utilisé depuis la deuxième partie du siècle passé pour le grand réveil spirituel dans le monde. Et je ne vais pas donner des exemples de façon très précise, mais lorsque je reviens dans une nation comme la nôtre, tout le monde est conscient de ce rôle que cette communauté joue depuis les débuts des années 80 pour amener l'élite, les cadres, les chrétiens à se lever et à s'engager dans la grande moisson. Parce que nous croyons que Jésus revient bientôt. Beaucoup aujourd'hui de chrétiens, des laïcs, des serviteurs de Dieu dans notre nation ont bénéficié de l'encadrement, de l'accompagnement ou même de l'inspiration de cette vision pour qu'ils puissent être mieux engagés au service du Seigneur.
Voilà, nous allons maintenant aborder un autre aspect d'une de vos multiples casquettes. Vous êtes docteur en médecine, spécialiste en ophtalmologie, promoteur de la clinique royale à Kinshasa Gombe. Y a-t-il quelque chose dans votre enfance qui vous prédestinait déjà à la médecine, à l'ophtalmologie en particulier?
Me prédestinait peut-être pas, mais j'ai eu très jeune ma vocation de devenir médecin. Je me rappelle que quand j'avais l'âge de 6 ans, déjà je répondais aux gens que j'allais devenir médecin. Quand j'étais à l'école, j'avais même parfois l'audace, jeune, de commencer à signer Dr. Fuelo.
Ah, c'était prophétique, comme on dirait dans certains milieux.
Voilà. Alors, mais j'ai aussi un souvenir qui peut être le souvenir le plus lointain que je puisse avoir. Je pense que je pouvais avoir peut-être 3 ans, peut-être 4 ans. Je ne sais plus, mais j'ai un vieux souvenir qu'un jour, on m'avait amené à un lieu et on avait mis sous mes aisselles quelque chose qui m'échauffait le corps. Et je pleurais, j'étais tout petit enfant. C'est mon plus vieux souvenir que j'ai. Plus tard, je me suis dit, probablement je faisais une fièvre et qu'on m'avait mis un thermomètre.
Un thermomètre. Aussi simple que
aussi
ça.
Aussi simple que ça. Alors, parce que je me dis, bon, est-ce que c'était quelque chose déjà en ce temps-là qui m'avait tellement marqué cet épisode au point où c'est resté dans mon subconscient au point de me donner cette vocation-là. Mais il faut dire aussi que, aussi jeune que j'étais toujours prompt à rendre service. Moi, j'ai grandi comme sans fausse modestie, comme un bon garçon, quoi. Alors, donc, ce qui fait que cette qualité-là, je pense, d'être capable de rendre aisément service aux autres, d'être charitable, je pense que ce sont été des valeurs qui ont forgé un peu ma vocation et ma détermination à être au service des autres comme médecin.
Vous l'avez dit, vous avez 61 ans aujourd'hui. Où est né Dr. Fuelo?
Moi, je suis né à Lumbi. Lumbi, c'est une mission catholique dans la province de Bandundu. À l'époque, mon père était directeur là-bas et c'est là que je suis né, en 63. Voilà.
Alors, quand vous dites que vous étiez un bon garçon, pas de bêtises, toujours premier de classe, toujours docile, est-ce ça où il y a des petites anecdotes que vous pouvez évoquer ici parmi les rares bêtises que vous faisiez?
Bon, je disais que j'étais un bon garçon, c'était peut-être en termes de caractère, mais je ne dis pas que j'ai pas fait des bêtises en tant qu'enfant. Mais c'est vrai que j'étais brillant et mon père m'avait mis dans les meilleures écoles possibles et j'ai bénéficié d'un très bon encadrement. Je pense que très tôt, les écoles où j'étais des écoles quand même d'élite. Parce que dans ma classe de 6e primaire, par exemple, nous étions à 20. Et les jours où je terminais en médecine, j'avais 6 de mes collègues de 6e primaire qui terminaient médecin avec moi.
Wow.
Et là, c'est une occasion pour moi peut-être de faire un coucou à notre enseignant de 6e primaire, le frère Jules Biépélé. C'est un frère de la congrégation des Joséphites. Il est là, il vit encore. Il avait à l'époque 18 ans quand nous on avait 12 ans en 6e primaire. C'était un enseignant particulier pour nous et C'est quelqu'un qui nous a vraiment mis sur le bon chemin.
Vous avez cité des amis d'enfance. Est-ce qu'il y a encore quelques noms qui vous reviennent à l'esprit?
Ah oui, ils sont nombreux.
Quelques-uns, juste. Nous excusant pour tous ceux que vous auriez pu oublier dans la suite.
Bon, peut-être que je vais repartir à mes amis de primaire. Quand je prends ceux qui sont médecins comme moi, il y a docteur Omer Passy, il y a docteur Gangalé, Roger, docteur Jojo, Moïla, on a docteur Denis Luposo, on a docteur José Kouvoula. Donc, autant d'amis en primaire comme au secondaire. Voilà. Et pas que en médecine, il y en a d'autres qui ont fait d'autres facultés. Et là où ils sont aussi, les uns les autres, en tout cas, on a bénéficié d'un bon encadrement. À l'université de Kinshasa, quand nous on terminait à l'université, il y avait 18 de ma classe de 6e primaire qui terminaient l'université.
Bravo. La jeunesse pour un garçon, tout petit, ça rime entre football, jeu. Quel était votre fort, la musique? C'était quoi votre fort à l'époque? Ou la lecture pour d'autres?
Oui, il faut dire que je n'étais pas très très brillant dans le sport, bien que... Je jouais parfois au foot, juste, mais je n'étais pas très très performant. J'ai grandi pas très gros, pas très fort, donc je n'étais pas très fort dans les foot ou dans les baskets. Mais il m'arrivait quand même de jouer avec des amis. Mais la lecture était une de mes passions. Et puis les moments de théâtre. Oui, j'aimais bien les pièces de théâtre. C'était vraiment une passion comme enfant. Voilà.
Et la musique, c'était quelle musique que vous aimiez à l'époque et aujourd'hui?
Bon, à l'époque, je me rappelle que quand j'étais en 6e primaire, nous avions créé un orchestre à l'internat. Mais cette carrière n'avait pas traîné. Parce qu'aussitôt on commençait cet orchestre. Et c'était. Les prêtres l'avaient interdit, on voulait s'entêter. Et une semaine après, je pense, pendant qu'on fouillait pour se cacher, je suis tombé, je m'étais fracturé un bras. Et finalement, tous les orchestres étaient interdits à l'internat. Donc c'est comme ça que...
Et la passion pour la musique a enterré.
Était enterrée. Par la suite, j'ai chanté à la chorale à l'église, mais ma voix n'était pas une des voix préférées.
Mais aujourd'hui, s'il fallait vous proposer une musique, ce serait laquelle?
Bon, aujourd'hui, je suis essentiellement la musique chrétienne, les gospels. J'avais à un moment donné pensé jouer ne fût-ce qu'un instrument de musique. Je me rappelle qu'au début des années 90, j'ai même dû acheter un synthé pour faire les cours de synthé ou de piano. Mais je n'étais pas si assidu. Et mon enseignant m'avait abandonné, quoi. Finalement, je ne sais pas utiliser un instrument de musique.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Témoin reçoit Dr Pierre Fouello. Il est docteur en médecine, spécialiste en ophtalmologie, promoteur de la clinique royale à Kinshasa Gombe, secrétaire général de Congondé, société d'intelligence stratégique, administrateur à Leadership Academia University, formateur en leadership de Équipe France et vice-président international en charge de l'Afrique et directeur international du Full Gospel Businessman Fellowship International. On va prendre une surprise pour vous. Je vais vous faire écouter quelqu'un et puis vous allez réagir là, par la suite.
Parler du docteur Fouilleur, il a beaucoup à dire. Bien que portant plusieurs casquettes pour nous, il porte définitivement la meilleure. C'est celle de notre père. Bonjour à tous. Bonjour papa, c'est Samuel. Surprise. Pour moi, papa, c'est un exemple de sagesse et de détermination. Il est toujours à l'écoute et à les meilleurs conseils de la vie. La chose que j'admire le plus chez papa, c'est que malgré ses très nombreuses occupations, il a toujours su être un père très présent pour nous. Je peux dire tout haut et fort que c'est un honneur d'être son fils, et ça me touche de voir qu'en ce jour, la Radio Capi décide d'honorer ainsi sa personne. Tu es le meilleur papa, je t'aime.
Waouh.
Voilà, je vous ai vu.
Comment tu as fait? Comment tu as fait?
Je vous ai vu vous exclamer. Oh.
Non, mais je suis vraiment étonné parce que ça, c'est la voix de Samuel. Samuel, c'est mon fils cadet. Samuel a quel âge? Il a 21 ans. Il est en dernière année à l'université aux États-Unis. Il est parti aux États-Unis à l'âge de 12 ans, je pense, ou 13 ans. Il vit là-bas. D'abord, je suis d'abord très flatté de voir qu'il parle encore très bien son français. Mais je suis surtout étonné que tu aies eu. Comment tu as fait, au fait, pour l'avoir? C'est ce qui m'étonne. Et je suis très touché par ces mots. C'est un enfant aussi qui fait vraiment ma fierté comme ses frères. Il est en dernière année. Lui, il fait les sciences de, les nouvelles technologies d'information, il est dans l'intelligence artificielle. Alors, j'ai apprécié son français et les mots. Vraiment, ça m'est allé droit au cœur. Mais je vais faire mon enquête pour savoir comment tu as fait pour pouvoir les joindre. Mais c'est vraiment une surprise.
Merci, docteur Fuelo. Ça fait partie des secrets de cette émission. Hein. Je voudrais dire merci à madame votre épouse qui a très bien participé à cette surprise.
Donc, c'est elle qui a trahi.
Merci beaucoup, maman. Vous avez bien su jouer le jeu. Et merci à Samuel et nous saluons toute la famille. Alors, ophtalmologue, pourquoi pas gynécologue, pourquoi pas pédiatre, mais seulement ophtalmologue?
Bon, il faut dire déjà que quand je terminais mes études de médecine, j'avais un attrait pour l'ophtalmologie. Et puis, j'ai été admis, au fait, en spécialisation sur cette branche-là. Et cela a été vraiment pour moi une passion, que de vouloir faire les choses aussi précises que les maladies et la chirurgie des yeux. Et j'étais déjà quelqu'un d'assez rigoureux dans la façon de faire les choses dans les petits détails. Et je pense que ça peut proprement avoir influencé d'aller dans un domaine de la médecine où parfois on travaille vraiment dans les petits détails. Imaginez-vous que parfois quand on opère à l'intérieur de l'œil, parfois, on a simplement 2 ou 3 millimètres de marge de manœuvre, en haut et en bas. Tu ne peux aller ni plus bas ni plus haut. Peut-être que j'étais conditionné à être suffisamment pointu. Peut-être que c'est ça qui a aussi influencé.
Alors, pour terminer notre entretien, docteur Fuelo, un mot à tous ces millions de jeunes Congolais en particulier qui vous suivent. Il y en a qui ont perdu l'espoir. Mboko Eko Bongate, ce pays, ça ne marchera jamais. Et qui ne savent plus fournir un seul effort, qui se sont laissés aller au découragement. Qu'est-ce que vous leur dites?
Donc, je voudrais vraiment les encourager à ne jamais se décourager. Le bonheur est encore possible pour cette nation. Et la jeunesse doit réellement s'élever et s'approprier de son avenir. Et la jeunesse intellectuelle doit déjà être une jeunesse aujourd'hui qui doit aller dans des réflexions stratégiques. Ce qui fait qu'il ne faut pas que les jeunes puissent vite ou trop vite se décourager. Nous tous, lorsque nous étions jeunes, nous avons connu aussi des temps difficiles. Moi, j'ai fini l'université à la fin des années 80, en 88. Et à l'époque, nous avions aussi des défis au niveau de notre génération. Il y a des gens qui sont partis hors du Congo pour chercher un avenir meilleur. Mais il y en a aussi qui étaient restés comme nous, qui sommes restés dans le pays et qui avons fait carrière. Et nous pouvons dire que nous n'avons pas le droit de perdre nos meilleurs jeunes, les jeunes les plus intelligents, les plus brillants. Aujourd'hui, nous devons œuvrer, nous d'abord les aînés, pour trouver des mécanismes, pour créer des opportunités, pour que les jeunes Congolais les plus intelligents, les plus experts puissent travailler ou revenir travailler au Congo. Et nous pensons que le Congo a encore toutes ses chances de développement. Dieu nous a fait la grâce d'avoir une nation qui a autant de ressources et autant de potentialités. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous n'en avions toujours peut-être pas fait bon usage depuis 65 ans ou 64 ans. Maintenant, nous voulons qu'ensemble, nous puissions faire un projet de nation pour une nation meilleure. Et je pense que ce sont les jeunes qui doivent s'engager à bâtir cette nation-là. Les jeunes Allemands, les jeunes Français, après la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, ils se sont mobilisés, ils ont bâti leur nation. Et nous pensons que nous pouvons faire. Et d'ailleurs, ils l'ont fait avec des nations qui avaient moins de ressources que les nôtres. Donc aujourd'hui, en 2024, le Congo a encore tous ses moyens entre ses mains pour que nous puissions avoir le Congo que nous voulons, un Congo meilleur, un Congo plus développé.
Docteur Pierre Fuelo, merci d'avoir accepté l'invitation de Grand Témoin.
Merci, merci. À moi de vous remercier. Merci aussi aux auditeurs qui ont accepté de me prêter leurs oreilles et leur attention.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation et coordination Alain Irung Mouchige. Supervision Jean-Marc Matouaki. À la technique Billy Landry Betou. Vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission et plusieurs autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radiokapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.